Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Blaise Ndadi Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal dont voici les sommaires. La rougeole au Nord Kivu, les enfants de moins de 5 ans payent le lourd tribut dans les territoires de Masisi et de Rutshuru. Et cela malgré les efforts des ONG et des autorités sanitaires. Les conditions de vie précaires, les déplacements des populations et la faible couverture vaccinale sont pointés du doigt. En Ituri, 9 miliciens des FRPI ont été tués, d'autres blessés et capturés, et plusieurs armes récupérées lors des deux affrontements survenus en l'espace d'une semaine sur les lacs Albert entre des miliciens et les marines ougandaises. Dans le cadre du projet Agriculture durable et meilleure protection des forêts en RDC, l'Église du Christ en Congo, en collaboration avec ses partenaires, a accompagné plus de 183 ménages du secteur des Balanga dans leurs efforts de protection et de préservation des forêts. Pour en parler, nous recevons Didier Fazili Abdallah, animateur communautaire de l'ECC Maniema. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à ce journal du matin sur la radio de la paix. La rougeole est loin d'être éradiquée dans les territoires de Masisi et Rutshuru. Malgré les efforts des ONG et des autorités sanitaires, cette maladie continue de frapper, surtout chez les enfants de moins de 5 ans, dans un contexte de violence, de pauvreté, de déplacements et d'accès limité aux soins. Entre avril et novembre 2025, plus de 3000 cas ont été pris en charge par Médecins sans frontières dans ces deux territoires. Les responsables sanitaires et les humanitaires appellent à un soutien urgent pour éradiquer cette maladie. Plus de détails avec vous, Denis Lukesomapanda.
Dans les zones de santé de Katoi et Kirochi, en territoire de Masisi, 1856 patients ont reçu des soins entre octobre et mi-novembre 2025, dont 756 cas avec complications selon MSF. Tandis que dans la zone de santé de Binza, dans les Rutshuru, les équipes de MSF déclarent avoir pris en charge 1195 autres patients, dont 355 cas graves entre mi-avril et novembre. Les enfants, surtout ceux de moins de 5 ans, sont les plus touchés. La malnutrition fréquente parmi les enfants déplacés ou vivant dans des conditions précaires aggrave des cas de rougeole. Un responsable sanitaire indique que plusieurs facteurs favorisent la propagation et aggravent la gravité de la maladie. C'est entre autres la couverture vaccinale insuffisante, la rupture des chaînes du froid ou encore l'impossibilité de mener des campagnes de porte à porte, des moyens financiers ainsi que l'inaccessibilité dans certaines zones à cause des violences rendant difficile l'acheminement des vaccins et l'accès aux populations. MSF déclare appuyer des nouvelles campagnes qui sont planifiées fin novembre à Katoi et Kirochi visant des dizaines de milliers d'enfants supplémentaires en plus de la prise en charge.
Santé encore, lancement ce mercredi de la deuxième phase de la campagne de vaccination contre la poliomyélite en République démocratique du Congo. Face à la résurgence des cas, les autorités sanitaires visent à vacciner près de 3 millions d'enfants âgés de 0 à 59 mois dans 19 provinces. Dans un message adressé à la population, le docteur Kolar Madika Kasongo, coordonnateur national du comité des opérations d'urgence polio, appelle les parents à collaborer avec les équipes des vaccinateurs pour le succès de cette campagne. Il a été joint par Enoch Katumbi.
Les provinces ciblées par cette campagne, nous en avons 19. Donc, on a Congo central, Kinshasa, Kwango, Kwilu, Maïndombe, Kasai, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, Sankuru, Maniema, Kivu, Nord Kivu, Chopo, Chuapa, Équateur, Sud et Nord Ubangi, et enfin Mongala. Et tout ce que nous demandons aux parents actuellement, c'est vraiment recevoir les vaccinateurs, faciliter leurs tâches. Et si jamais il y a un enfant qui marchait, qui ne marchait plus, qui s'asseyait, ne s'assoit plus, donc tous ces enfants-là, ils peuvent être signalés au niveau des vaccinateurs qui vont passer.
Dans un autre registre, en Ituri, 9 miliciens du groupe armé Force Patriotique et Intégrationniste du Congo, FRPI, ont été tués, d'autres blessés et capturés et plusieurs armes récupérées. C'est le bilan des deux affrontements survenus en l'espace d'une semaine sur le lac Albert entre ces miliciens et la marine ougandaise. Selon des sources de sécurité, les assaillants ont été surpris dans les eaux ougandaises près de Kapuru et Kitebere où ils pillaient les poissons des pêcheurs. Les précisions avec vous, Lucky Nzao.
Les miliciens de la FRPI patrouillent régulièrement sur le lac Albert dans la zone qu'ils contrôlent au sein de la chefferie de Walendubindi en territoire d'Irumu. Plusieurs pêcheurs, notamment autour des îlots, dénoncent des tracasseries et les pillages de leurs prises. Dimanche dernier, alors qu'ils tentaient d'extorquer des pêcheurs, un groupe de miliciens a été surpris par des soldats ougandais alertés par les victimes. Au cours des échanges de tirs, deux autres se sont tirés avec des blessures et cinq armes ont été récupérées, indiquent des sources de sécurité. Un autre incident a été signalé vendredi dernier, toujours sur le lac Albert, où deux embarcations transportant des miliciens de la FRPI ont été interceptées par la marine ougandaise. Ces miliciens ont été tués et d'autres capturés, précisent les mêmes sources. Les associations des pêcheurs des localités lacustres appellent le gouvernement congolais à renforcer la présence et les moyens des forces navales sur le lac Albert. Elles souhaitent des patrouilles plus efficaces pour protéger les pêcheurs contre les attaques et tracasseries des groupes armés, dont la CODECO, la FRPI et les CRP qui contrôlent certains camps de pêche dans les territoires de Djougou et d'Irumu.
Et puis, les casquettes bleues de la MONUSCO poursuivent leurs actions de protection des civils au Nord Kivu et en Ituri. Depuis le début du mois, ces soldats de la paix sont engagés sur le terrain à travers des patrouilles, des consultations médicales en faveur des populations vulnérables. Ils sont également actifs dans la réhabilitation de certains ouvrages, notamment des routes stratégiques pour faciliter la mobilité des habitants et des acteurs humanitaires dans les deux provinces. Les explications avec le colonel Charles Ijiwa, officier de l'information publique de la force de la MONUSCO. Il est au micro de Martial Papimukeba.
Au Nord Kivu, le 21 novembre 2025, la brigade d'intervention de la MONUSCO a mené une mission de reconnaissance aérienne sur les triangles Mavivi, Forêt, Mayangose, Nyaleke, Abeni, en coordination avec les FADC, consolidant le renseignement et la confiance entre les deux forces et la population. Le 22 novembre, la force d'intervention rapide kenyane a construit et inauguré deux nouvelles salles de classe à l'Institut Erengeti à Mavivi. Le 20 novembre, la base opérationnel de Kichanga a organisé dans sa zone de responsabilité une activité civilo-militaire pour une trentaine d'enfants avec des ateliers créatifs, des vidéos éducatives, stations médicales et des distributions de kits scolaires et d'hygiène. En Ituri, le 22 novembre, la compagnie d'ingénierie népalaise a réhabilité plus de 23 km de la route nationale 27, facilitant la circulation des casques bleus et FADC, des habitants et des humanitaires.
À Mbandaka, pendant ces temps, l'insécurité grandissante fait l'objet d'une motion d'information déposée mardi au bureau de l'Assemblée provinciale. Le député provincial Luizon Mumbenga Botuli, auteur de cette motion, dénonce notamment l'assassinat d'un homme au grand marché de Mbandaka par un policier la semaine dernière. Un procès sur ce meurtre s'est ouvert d'ailleurs ce mercredi à la mairie de Mbandaka. Askin Zigbiatayoro nous en dit plus.
Ce procès vise à éclaircir les circonstances ayant conduit au maître d'un homme au grand marché de Mbandaka à la suite d'une dispute entre des policiers et quelques civils. D'après les informations recueillies, ces altercations seraient liées au recouvrement forcé des taxes imposées aux conducteurs de taxi-moto et aux chargeurs de téléphone. Selon les témoignages, la situation a dégénéré au point qu'un policier, perdant son sang-froid, a tiré à bout portant sur un civil qui voulait simplement se déplacer pour chercher l'argent nécessaire au paiement de la taxe pour la recharge de son téléphone. Les mêmes sources affirment qu'un autre policier a blessé par balle deux autres personnes sur les lieux de l'incident. Pour le député provincial auteur de motion d'information, les autorités judiciaires doivent sanctionner sévèrement le policier responsable de ces crimes commis au grand marché de Mbandaka. Par ailleurs, Luizon Mumbenga demande aux autorités urbaines de prendre en charge les soins médicaux de victimes internées à l'hôpital militaire du Kangashi. Cet élu lance également un appel pour la tenue urgente d'une réunion interinstitutionnelle afin de trouver des solutions efficaces face à l'insécurité qui prévaut en Mbandaka.
Revenons au Nord Kivu où il y a eu lancement mardi à Walika les centres des travaux de réhabilitation de plusieurs axes routiers d'intérêt régional. Le coup d'épée a été donné par le gouverneur militaire, le général major Kakule Somon, qui effectue depuis le début de la semaine une mission d'itinérance dans les territoires de Walika les et Nord Katumbi pour les détails.
Au nombre des routes concernées par ces programmes, il y a le tronçon Walika-Kibua, un axe long de 85 km, avec 8 ponts et plus ou moins 200 ouvrages d'assainissement à construire. La réhabilitation vise aussi la route Walika-Itebero, également celle qui mène vers le quartier administratif des Walika-Centres. Des avenues et des rues sont aussi retenues pour leur aménagement. Ces travaux qui dureront 8 mois bénéficient du financement du projet d'appui au secteur agricole dans la province du Nord Kivu. Le principal objectif est le désenclavement des zones agricoles afin de faciliter l'évacuation de la production vers le grand centre de consommation. 4 entreprises se répartissent les lots afin de garantir la livraison des ouvrages dans les délais, renseigne le service technique. Par la même occasion, le gouverneur militaire du Nord Kivu a procédé à la relance des travaux d'élargissement de la piste de l'aérodrome de Kigoma. De 1113 mètres, la piste mesurera 1800 mètres de longueur à l'issue des travaux et sera en mesure d'accueillir des aéronefs de capacité relativement grande. Le financement de cet ambitieux projet vient du gouvernement provincial selon nos sources. La population des Walikale affirme sa joie de voir lancer ces chantiers. Depuis près d'une année, les territoires des Walikale suffoquent avec, d'une part, son enclavement et d'autre part, les tentatives d'occupation par la rébellion M23. Après Walikale Centre, le général-major Kakule Somo Evariste s'est rendu à Pinga, toujours dans les territoires des Walikale.
Cependant, ici à Kinshasa, les habitants du quartier Kimwenza, dans la commune de Mongafula, se plaignent de la présence de deux têtes d'érosion qui rendent difficile leur déplacement. La route Kimwenza-Gare, la principale voie d'accès à leur quartier, est désormais divisée en trois parties. Ces habitants lancent un appel à l'aide aux autorités. Naomi Mutoke s'y est rendue, suivez son reportage.
Les habitants de Kimwenza font face à d'énormes difficultés pour se déplacer. Ils sont obligés de prendre plus de 2 motos pour aller vaquer à leurs occupations quotidiennes, sans compter des tronçons où seule la marche à pied est possible. Certains d'entre eux témoignent.
Les dernières pluies qui ont causé cette érosion, les jeunes nous souffrons. L'État doit trouver une solution car les taxis n'arrivent pas aux arrêts des bus. Il y a 2 érosions, une ici à des chemins et l'autre à Kondo. Nous souffrons, il faut monter dans plusieurs taxis.
Face à cette situation, le bourgmestre de Mongafula, Séverin Lumbu Malamba, rassure que le gouverneur de la ville est au courant de la situation et qu'une solution va être trouvée.
Cette route de Kimwenza qui va à la gare de Kimwenza, 3 dernières pluies ont endommagé la route. Son Excellence, Monsieur le Gouverneur, tient à ce que cette route soit réhabilitée. Son Excellence, ministre de l'ITP, Monsieur Banza, était passé par là pour constater et il a déclaré que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, veut à tout prix que cette voie soit réhabilitée.
Séverin Lumbu précise que la commune de Mongafula compte une 30aine de têtes d'érosion. La dernière fruit de pluie de ces mois de novembre se trouve justement sur la route de Kimwenza.
Province du Maniema, avant d'aller plus loin, garantir un meilleur avenir aux députés provinciaux et les assurer contre les aléas de la vie après leur mandat, c'est l'objectif de la proposition des dites portant régime spécial des sécurités sociales des élus provinciaux du Maniema. Proposée par le député Théophile Boulay-Lidokta, élu de Kabambaré, ce texte a été jugé recevable lors de la plénière de ce mercredi 26 novembre. Le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Dr Papi Omeonga Chopa, nous explique les points saillants de cette loi provinciale au micro de Florence Kizalunga.
La proposition du dit là, c'est pour le régime spécial de sécurité sociale des parlementaires de la province du Maniema. Le président de notre assemblée l'a versé dans la commission PAJ pour nettoyage, approfondissement et enrichissement. Après, 7 jours, la commission PAJ va présenter ça en plénière pour que nous puissions l'adopter. C'est important parce que maintenant là, nous sommes actifs. C'est pas aujourd'hui que nous allons bénéficier, c'est que les dits prévoient. Les bénéficiaires sont soit ceux qui n'auront pas la chance d'être réélus si on organise les élections. À ce moment-là, il faut commencer à bénéficier. Les avantages. Ceux qui seront par exemple frappés par les capacités ou bien qui ne seront plus à mesure de travailler, c'est toutes ces catégories-là qui vont bénéficier de ça. Donc en quelque sorte, on est en train d'épargner, comme ce que fait la CNSS avec les para-étatiques, il y a la CNSAP aussi avec les fonctionnaires de l'État. C'est en quelque sorte ce qu'on est en train de voir comme ça. À chaque paye, on va commencer à retenir un montant qui sera versé dans la caisse et à la fin de la législative, à ce moment-là, on va commencer à payer les gens. C'est une bonne proposition parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui on est actif et on a quand même quelques chose. Nous sommes en mesure de nous prendre en charge, mais on ne sait pas après des années ce que nous serons.
Actualité internationale.
En Guinée-Bissau, quelques heures après que des tirs ont été entendus mercredi 26 novembre 2025, en milieu de journée près du palais présidentiel, un groupe d'officiers nommé le Haut Commandement Militaire pour la Restauration de l'Ordre dit avoir pris le contrôle du pays jusqu'à nouvel ordre et fermé les frontières. Le président Oumaro Sissoko Embalo a confirmé avoir été arrêté et renversé. Une prise de pouvoir qui intervient à la veille des résultats des élections présidentielles et législative organisée dimanche 23 novembre.
L'invité.
Dans le cadre du projet Agriculture durable et meilleure protection des forêts en RDC, l'Église du Christ au Congo, ECC, en collaboration avec ses partenaires, a accompagné plus de 183 ménages du secteur des Balanga dans leurs efforts de protection et de préservation des forêts. De 2021 à 2025, ce projet, financé par l'Initiative internationale norvégienne pour le climat et les forêts, a apporté des changements positifs au sein des communautés locales en matière de gestion durable des forêts. Pour en parler, nous recevons Didier Fazili Abdallah, animateur communautaire à l'ECC Maniema. Il s'entretient avec Florence Kizalunga.
Didier Fazili Abdallah, bonjour.
Bonjour madame.
Vous accompagnez la communauté du secteur de Balanga sur la protection et la préservation des forêts. C'est quoi l'objectif de ces projets?
Bon, comme le titre l'indique, agriculture durable et meilleure protection des forêts. Donc l'objectif dans ces projets est de garantir la protection et la préservation des forêts des communautés locales. C'est ça l'objectif global. Et à part l'objectif global, il y a d'autres objectifs, entre autres promouvoir la société civile, parce que la société civile doit quand même aider cette population à parler au nom de cette communauté. Et aussi, un autre objectif, c'est garantir les moyens de subsistance de cette communauté.
Pourquoi seulement dans cette zone?
Bon, nous avons choisi la zone de Balanga pour plusieurs raisons. Notamment, d'abord, c'est une zone où nous trouvons les peuples autochtones. Les pygmées sont là. Et la deuxième raison, dans cette zone, nous trouvons l'air protégé, le parc de la Lomami. Comme vous le savez, la communauté de Balanga vivait exclusivement de la chasse. Mais depuis qu'on a érigé le parc là-bas, la communauté n'a plus accès à la chasse, raison pour laquelle nous sommes dit il serait important d'accompagner cette communauté-là à avoir d'autres alternatives pour leur survie. Voilà un peu les quelques raisons.
Vous parlez sur la protection et la préservation des forêts. Comment les projets en question abordent cette question de gouvernance forestière?
Le projet n'a pas inventé la roue. L'État a déjà circonscrit dans le cadre du code forestier, a circonscrit tous ces éléments-là. Il y a des lois qui ont été votées par les législateurs et ces lois-là donnent la possibilité à la communauté de pouvoir solliciter une concession des forêts communautaires et cette concession-là doit être gérée. Il y a plusieurs possibilités de gérer cette communauté. Soit la communauté elle-même gère, soit elle crée une coopérative ou elle peut solliciter une autre organisation qui peut gérer à sa place.
Et comment les religieux sont-ils impliqués dans votre projet?
Les religieux sont impliqués étant donné que c'est une spécificité pour notre programme, parce que c'est un programme qui est dirigé par l'Église. Il y a l'Église catholique et l'ECC. Et les autres confessions sont aussi impliquées. Et ils jouent un rôle très capital, étant donné qu'ils sont là pour la sensibilisation, à travers les homélies, à travers les différents messages qui passent dans les églises, et avec les notoriétés que ces religieux ont, ça leur facilite à ce que ces messages passent et que la communauté puisse comprendre facilement la question des conservations et prend ça au sérieux. Voilà un peu les rôles que jouent les églises.
À part ces rôles de sensibilisation, quelles sont les activités concrètes que cette coalition interreligieuse mène sur terrain?
Bon, la coalition mène beaucoup d'activités. À part la sensibilisation, il y a aussi les plaidoyers. La coalition joue le rôle de plaidoyer auprès des autorités par rapport aux différents problèmes qui se posent au niveau de la base. Et à part ça aussi, je dirais la coalition joue aussi le rôle de pacification. C'est là que je voudrais illustrer un cas où il y a eu mort d'homme au niveau des Balanga, mais l'ICSN a été obligé de solliciter les bons offices de la coalition et la coalition a facilité à ce que ces problèmes soient résolus très rapidement. Donc la coalition est en train de jouer un rôle très capital au niveau des Balanga dans le cadre de ces projets.
Alors, durant les 4 ans que vous êtes en train de mener ces projets, est-ce que vous avez pu observer un changement au sein de la communauté?
Effectivement, il y a un changement parce que comme je le disais, la communauté dépendait totalement de la chasse. Mais maintenant, la population s'adonne à l'agriculture. Étant donné que les programmes ici prévoient un volet agricole et un volet aussi protection, la population maintenant s'adonne à l'agriculture et il y a augmentation des productions. Le deuxième point positif, la communauté a quand même compris l'importance de préserver la forêt, de protéger la forêt. Parce qu'avant, elle ne savait pas, on parlait des changements climatiques, toutes ces notions-là, la communauté n'avait aucune notion. Mais à partir de ces programmes ici, quand vous arrivez là-bas, vous posez la question à un membre de la communauté, il va vous répondre, il va vous dire qu'il comprend bien l'importance de protéger la forêt, de préserver la forêt pour des générations futures.
Quelles sont les perspectives d'avenir pour votre projet ici?
D'abord, nous voudrions continuer à accompagner cette communauté-là. Or, on ne peut pas l'accompagner sans moyens, raison pour laquelle nous devons faire tout pour rechercher des financements pour continuer à accompagner cette communauté-là. La population a réussi une concession forestière des communautés locales. Maintenant, nous devons voir dans quelle mesure l'accompagner maintenant dans la mise en œuvre du plan simple de gestion.
Didier Fazili Abdallah, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'est aussi par ici que nous mettons un point final à notre journal du matin. Merci de nous avoir suivis.